L'Académie des blogs. Un rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité des lettres et de la culture sur Internet. On retrouve Élodie Courtejoie et David Abiker.
Bienvenue dans l'Académie des blogueurs. Aujourd'hui, on reçoit Ron l'infirmier. Alors, je ne sais pas si c'est un nom et un prénom, Ron l'infirmier, mais en tout cas, c'est comme ça que ce blogueur se fait appeler sur la toile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps, on avait reçu Guy Birenbaum, éditeur, qui nous avait parlé de la façon d'exercer le métier d'éditeur quand on est confronté à tous ces blogs et comment y trouver éventuellement des manuscrits. Et Guy nous avait parlé de Ron à cette époque-là. Et aujourd'hui, on reçoit Ron l'infirmier, qui tient un blog ou qui tenait un blog très très fréquenté dans la blogosphère. Ron, comme son nom l'indique, est infirmier et il a tiré de son blog des nouvelles. Ça s'appelle La chambre d'Albert Camus et autres nouvelles. C'est paru chez Privé il y a quelques semaines à peine, juste avant Noël. Et il est venu nous parler de ce livre aujourd'hui et de son blog. Blog qu'a visité Élodie, comme toujours.
Mais qui êtes-vous, Ron ? Ron Weasley, pour être exact. Le super pote d'Harry Potter ? Non, vous êtes Ron. Ron version française. Ron l'infirmier qui vit des aventures intenses, tant sur le plan professionnel que personnel. Votre premier pseudo, Benoît Mestrier, peu sexy, hein ? Alors vous optez pour le nom d'un élève de l'école de Poudlard, parce que vous êtes top tendance. Alors il semble que vous n'aimiez pas du tout votre prénom, comme moi, mon nom de famille, d'où cette ténacité pour que l'on vous appelle Ron et pas autrement. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les stars en vogue telles que Wouter Levenbach, Dave, ou encore Roger Joubert alias Plastic Bertrand qui vous jetteront la pierre. Mais revenons à votre blog. Tous les ingrédients d'une série américaine y sont, ce qui explique votre succès. Vous nous donnez de la couleur, le sang, les odeurs, les extractions de dents, de l'émotion, des vers ayant élu domicile dans les plaies d'un SDF ou encore les fugues Alzheimer. Il y a aussi du sexe en général, les histoires de vos amis et du romantisme. Voir pour ça la thématique marmotte et de l'humour. Vous nous faites donc passer du rire aux larmes. Preuve en est avec l'un des articles fondateurs de votre blog, beaucoup plus émouvant que cette énumération un peu racoleuse, celui où vous relatez l'histoire du 1er décembre 1995. Élève infirmier au service des maladies infectieuses, vous entrez dans la chambre d'un jeune homme de 22 ans que vous prenez pour un vieillard à la base. Sida en phase terminale, il vous demande d'aller lui acheter un bouquet de fleurs et dès le moment où vous allez les acheter, le temps de faire l'aller-retour, il décédera. Alors cette histoire, comme une grande partie de celles qui ont fait le succès de votre blog, ne sont malheureusement plus accessibles pour les humbles lecteurs que nous sommes. Désormais, pour les lire, il faut acheter votre livre de nouvelles, La chambre d'Albert Camus, qui devrait d'ailleurs être réédité, s'il me semble, et oui, victime de votre succès. Alors sachez-le, chers auditeurs, dans le livre de Ron, Albert Camus a 65 ans et est vietnamien d'origine, qui l'eût cru ? Le plus amusant dans cette histoire, véridique de surcroît, c'est qu'Albert Camus est maqué avec Jean-Paul Sartre. Pauvre castor. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au poste du 11 janvier 2007 où figure la suite de cette histoire. Bon, Ron, j'espère que je serai rémunérée en conséquence pour cette petite autopromo. Plus largement, ce que je retiendrai de vous, c'est que vous êtes dépensier, puisque s'abonner à Capital, acheter une tirelire pour y mettre chaque jour un euro est un signe, que le jour de votre premier rendez-vous avec la marmotte, un pigeon vous a fait dessus, que vous êtes fan de Paul McCartney, que vous aimez le Toblerone, alors si vous aimez le chocolat noir, on peut peut-être s'entendre, que vos amis ont vraiment la poisse, je fais référence à Mounia, victime d'une crise d'urticaire géante sur la plage, ou encore Greg, lâché par son amoureux après avoir quitté appart et boulot, des épisodes truculents. Et surtout, j'ai retenu que vous embarquiez des stylos des autres, alors j'espère que vous ne piquerez pas le mien. Enfin, si en même temps il peut vous inspirer dans l'écriture de votre second livre, je veux bien faire un petit geste.
Alors Ron, est-ce que vous reconnaissez dans ce portrait, ce croquis croquant ?
Mais complètement, ça a été fouillé vraiment, c'est incroyable. Là, tout le blog a été passé au crible, c'est incroyable. Vraiment, je suis scié. Alors de ressortir Benoît Mestrier, qui est mon premier nom d'auteur qu'on avait ici, on s'était creusé la tête tout un après-midi, pour savoir comment est-ce que je pourrais m'appeler si j'écrivais des livres.
Voilà. La première fois que je suis allé sur votre blog, moi j'ai été très surpris. Ce qui m'a frappé, c'est en fait les habitués. Vous avez, on dirait aujourd'hui, une clientèle de lecteurs complètement mordus par Ron l'infirmier et qui vous réclamaient des postes et des postes qui vous encouragent. Comment vous avez bâti cette espèce de communauté de mordus de Ron l'infirmier ? c'est quoi la genèse de cette histoire?
J'ai rien fabriqué, mais bon, c'est vrai qu'en écrivant tous les jours au quotidien, forcément, on habitue les gens à revenir. Et eux-mêmes s'habituent à me trouver tous les jours là. Donc, je pense qu'il y a des gens qui arrivent tous les jours au bureau, qui cliquent et qui sont là, et hop, avec leur premier café le matin, mais ils viennent me lire. Et ensuite, le fait de ce système de commentaires où les gens peuvent être identifiés rapidement avec un petit avatar, avec leur petite boîte mail particulière pour eux, ça donne une petite couleur chaleureuse au blog. Et puis voilà, il y a une petite communauté qui s'est créée. Et les gens se sont retrouvés là-dedans, voilà.
Ça a démarré comment, en fait, ce blog? Est-ce que le premier lieu commun qu'on pourrait vous sortir, c'est il y avait une énorme pression dans son métier, il voit des choses horribles toute la journée, il a décidé de se défouler en rentrant chez lui, en couchant ça sur le papier. Donc, on met cette analyse de côté. Qu'est-ce qui a déclenché le...
En lisant des blogs sur Internet, je me dis, mais c'est extraordinaire ce truc. Les gens racontent leur vie, racontent ce qu'ils ont vu au cinéma ou leur dernier shopping, et les autres sont fascinés. Je me suis dit, moi, je vais faire la même chose. Je vais raconter quand je suis allé à Auchan hier, j'ai fait des courses et que tout le monde me mette 20 commentaires. Bon, c'était pas aussi simple que ça, parce que je me suis rendu compte qu'en racontant ça, personne ne lisait. Je me suis dit, il va y avoir une recette secrète pour avoir des commentaires. Donc, j'ai essayé de raconter le dernier film que j'avais vu, la dernière balade au bord des quais de Seine. Non plus, ça marchait pas. Bon, je me suis dit, bon, il va pas y avoir de recette, donc bah, je vais juste parler de moi. Voilà. Après tout, au moins, ça intéressera au moins moi et mes amis. Et puis voilà, et en fait, en parlant de moi, bah, moi, c'est mon métier. Donc, bah, je me suis rendu compte que ces posts quotidiens sur mon métier faisaient un peu le tour d'Internet rapidement, puisque les gens me linkaient, hein, c'est-à-dire qu'ils me citaient, ils citaient mon adresse, ils venaient me voir. Et je me suis rendu compte que le nombre de commentaires croissait. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Donc,
comment vous expliquez l'intérêt des gens pour la vie quotidienne d'un infirmier?
C'est pas la vie quotidienne d'un infirmier, c'est la vie quotidienne d'un travailleur qui n'est pas le leur. Je pense que si j'étais, je sais pas, comptable ou maraîcher, y aurait le même intérêt. C'est la vie quotidienne d'un métier qui n'est pas le mien. Moi, je suis intéressé par la vie quotidienne d'un avocat, d'un journaliste, d'un critique littéraire, parce que c'est un monde que je ne connais pas, qui m'ouvre ses portes pour quelques minutes, je vais rêver ou avoir peur pour lui, et puis après je reviens tranquillement
chez moi. Vous ne croyez pas que les thèmes de santé sont très concernants ?
Un petit peu, mais pas tant que ça. C'est l'approche qui est intéressante, je trouve. C'est pas tant le thème. Oui, bien sûr, les thèmes de santé, parce que je vois que ça intéresse, évidemment, ça touche la santé, c'est tout le monde, la maladie, c'est tout le monde. Mais je crois qu'il y a aussi le ton sur lequel c'est écrit. C'est le métier, je pense, qui intéresse. Les blogs professionnels fascinent énormément, parce que c'est une carrière qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, je pense.
Avant de vous mettre au blog, est-ce que vous aviez l'habitude d'écrire sur des cahiers ou des...
Oui, lycéen à 17 ans, je suis mort de honte quand je relis ça, donc je cherche un incinérateur près de la maison. Régulièrement, j'en trouve pas parce que j'espère que personne va trouver ça, c'est une catastrophe.
Donc en fait, ce journal, vous ne l'avez tenu que sur Internet?
Je l'ai tenu, oui, que sur Internet, oui.
Et ça veut dire que vous vous êtes trouvé vers la trentaine, une espèce de familiarité avec l'écriture, et que vous n'êtes entré en écriture que via le blog, finalement.
Oui, uniquement via le blog, ouais, absolument.
Ce qui est assez rare, parce que jusqu'à présent, tous les gens qu'on a reçus, chroniquent dans la presse, écrivent des livres, les éditent, sont d'abord des hommes d'écriture sur le papier, avant de s'être mis à bloguer. Vous, c'est la nouvelle génération.
Ah oui, enfin, une nouvelle génération, je ne sais pas, mais c'est la découverte qu'avec un clavier et Internet, je peux transmettre un écrit tous les jours. Voilà, ça, ça a été incroyable.
Alors, vous êtes modeste, vous ne l'avez pas dit, mais ce qui a fait la réputation de votre blog, c'est quand même un ton, c'est quand même une forme de crudité, c'est un sens de l'humour ravageur, c'est en même temps un sens du contre-pied très efficace, c'est-à-dire que vous êtes capable de passer du rire aux larmes, ou en tout cas de faire passer vos lecteurs du rire aux larmes, autour d'anecdotes qui sont véritablement très quotidiennes, très simples, mais vous avez une façon de les mettre en scène qui est tout à fait truculente, magistrale, enfin bon. Comment ça s'est passé, la rencontre avec l'éditeur? Est-ce que vous y pensiez? Est-ce que vous aviez des fantasmes de publication?
Mais jamais. Moi, j'étais même... Enfin, les lecteurs n'arrêtaient pas de me dire, c'est extraordinaire, ça sera un livre. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Vous y connaissez rien en livre, moi non plus, c'est pas ça. Pour moi, les livres, c'est Chateaubriand, c'est Victor Hugo, c'est Madame Bovary. Voilà, point. Et puis, à force d'entendre ça, j'ai dit un jour, j'ai écrit un petit billet, j'ai mis une ligne, j'ai fait, bon, je cherche un éditeur. Voilà. Personne ne l'a vu. 2-3 jours après, je passe chez Birenbaum, qui a un blog politique. Je mets un commentaire chez lui. Lui, il était un peu désœuvré ce dimanche matin-là. Je pense qu'il vient chez moi, il voit ça, il me dit « envoie-moi un manuscrit ». Donc j'ai un peu peur de l'envoyer par la poste, parce que je me dis « la poste, ça va se perdre ». Donc j'y vais moi-même, je lui donne le lundi, et puis le mercredi, j'étais convoqué dans le bureau. Et voilà, il me dit « on va faire un livre ». Ça, c'était en juin, on a signé un contrat en 2 jours, et puis voilà, le bouquin est sorti 6 mois après. J'ai rien provoqué, j'ai rien cherché. Ça a été très facile. Et d'ailleurs, j'ai toujours l'impression que c'est facile d'écrire un livre, parce que c'est tellement été facile pour moi. Je me dis, mais pourquoi les gens se plaignent? Finalement, ça a l'air très simple. J'ai réalisé depuis que c'est pas du tout simple d'écrire un bouquin. C'est un vrai chemin de croix.
Mais est-ce que vous aviez le sentiment d'avoir fait la moitié du parcours en ayant posté toutes ces histoires où il a fallu tout refaire?
Mais j'avais rien fait du tout. J'ai donné mes textes, le rouge au front. Je me dis, mais qui va vouloir de ça? Et elle est inconsciente. Et quand elle m'a dit, on touche quasiment à rien, elle m'a dit 90% du
temps. Ça, c'est l'éditrice.
Oui, hein, l'éditrice, ouais. La chamelle, comme je l'appelle, parce que je renomme un petit peu les gens avec qui je travaille. Quand la chamelle m'a dit, on retouche quasiment à rien, on va enlever 2-3 virgules, on va revoir avec toi, il y a des petits textes, les conclusions sont pas terribles, mais ça vaut le coup de passer un bouquin. Je dis, mais elle sait pas ce qu'elle raconte, la pauvre.
C'est ça veut possible. Dire que le travail additif à ce que vous aviez écrit a été finalement marginal?
Oui. Oui, oui. Bon, quand on écrit sur un blog, c'est du quotidien, donc on parle un petit peu de ce qu'on a fait la veille, de ce qu'on va dire le lendemain aux gens, donc ça, on pouvait pas le mettre sur du papier. Mais il y a eu quasiment aucune retouche. Il y a des textes, même j'ai eu peur de les retoucher, l'histoire du 1er décembre qu'on évoquait tout à l'heure. Je me suis dit, ça a été écrit du premier jet, si ça a plu à l'éditrice, je pense qu'il vaut mieux pas le toucher. Je veux pas démolir l'échafaudage, donc je touche à rien. Après, certains autres textes, bah, je les ai refaits parce qu'ils me faisaient un peu honte, hein. Ils avaient été écrits un an et demi, c'est quand même un bouquin, les gens vont payer pour ça. On maquille un petit peu quand même. Mais globalement, il y a eu très très peu de travail de réécriture parce que je ne sais pas réécrire. Enfin, je ne suis pas un vrai écrivain, moi je suis un infirmier, je fais des prises de sang.
Ça va peut-être changer. est-ce que vous auriez pu écrire sans visiteurs et sans public?
Maintenant, oui. À l'époque, non. À l'époque, j'écrivais, je me disais, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ah, ça leur plaît, ok, donc on va aller un peu plus loin. Tiens, demain, je vais parler de constipation. Tiens, après-demain, je vais parler de nudité dans une toilette. Voilà, à l'époque, j'avais vraiment besoin de ça. C'était vraiment le chèque en blanc sur le prochain billet. Maintenant qu'on a fait à peu près tous les thèmes, bon, il y en a encore des centaines, mais qu'on a fait les thèmes les plus, je dirais, limites, ouais, j'ai plus besoin de lecteurs, parce que je me dis, j'ai le droit d'écrire tout seul, voilà.
Et vous êtes posé des questions du type secret professionnel, parce qu'après vous, vous exercez une profession médicale.
Hein. Il est respecté. D'abord, il est respecté intimement, parce que je ne veux pas trahir les gens que j'ai rencontrés. D'accord? Donc, de façon personnelle, aucun détail dans ce que je raconte n'est transposable à quelqu'un que j'ai rencontré. Deuxièmement, les noms, les prénoms sont changés, les lieux, les dates. Si j'ai travaillé chez Tartampion, je mets que c'est un autre. Enfin, on peut pas retrouver mes patients. Et quand, par hasard, quelqu'un se retrouve dans une histoire, je suis flatté parce qu'on me dit, ah, tiens, tu parles de l'hôpital, j'ai reconnu, c'était Marseille. Je le sais, t'as décrit tel service, donc j'ai jamais foutu les pieds à Marseille.
Est-ce que les gens qui vous avaient déjà lu sur le blog ont pris la peine de lire le livre ou ont eu envie de lire le livre?
Oui.
Qui disaient à peu près la même chose?
Oui, ils l'ont lu. D'abord parce qu'il y a un petit côté pop star. On a suivi quelqu'un sur Internet pendant quelques mois. Il sort son disque ou son livre. On veut le voir en vrai, parce qu'on a besoin d'y croire. Et deuxièmement, certaines personnes sont plus touchées par le papier que par l'écran. Il y a des histoires qui sont plus posées sur du papier, qu'on apprécie plus tranquille dans son lit ou dans un métro le matin. Voilà. Donc il y a des gens qui, en plus, ont tenu à acheter le livre pour me dire « je voulais le lire dans un autre contexte. Je voulais savoir si les histoires se tenaient. » Visiblement, elles se tiennent.
Vous aviez un modèle en écrivant ou en publiant et vous vous disiez, maintenant je vais publier un livre, finalement, tel auteur que j'admirais, je me rapproche de cet auteur-là ou pas du tout?
Oui, j'en ai deux. J'ai Nicole de Buron et j'ai Armistead Maupin. Voilà. Nicole de Buron pour le côté, je dis des choses très graves sur un ton très léger, et Armistead Maupin sur, c'est très court, très long, il se passe plein de choses en 5 pages, et puis les 5 pages suivantes, on passe à autre chose. Voilà.
Vous parlez beaucoup de vous, vous vous racontez énormément sur le plan de la vie personnelle. Quand on vous dit, mais est-ce qu'on n'est pas dans une surexposition de l'intime? Vous vous dites, c'est mon tour, après avoir subi l'intime des autres dans mon métier, je vais me venger, l'avantage, je vais leur raconter ma vie.
L'avantage avec le blog, c'est qu'on choisit l'heure, le moment, la date, l'éclairage, on choisit tout. Avec un blog, on raconte ce qu'on veut et on ne raconte pas ce qu'on ne veut pas. C'est un blog, il ne faut pas rêver. Les gens qui ont l'impression de bien me connaître avec le blog... Ça me fait un peu rigoler. Non, il manque au moins 2 ou 3 dimensions.
Parce qu'on assiste quand même au croissant du matin, au mamour, à la vie domestique.
On assiste au croissant du matin, ouais. Quand je daigne aller les acheter, quand je daigne ensuite raconter l'histoire. Ouais. Les mamours, on assiste pas aux engueulades ni à la descente des poubelles. On assiste, qu'est-ce que je veux bien, qu'est-ce que les gens assistent, point. Non, ça c'est la grande illusion avec les blogs, c'est qu'on a l'impression qu'on est à proximité des gens. Moi je reçois des mails de gens qui me disent, ils ont lu mon blog, ils ont acheté mon livre, je te l'envoie, tu me le dédicaces et tu me le renvoies. Non, il faut se calmer, hein. Je suis à l'écoute, on répond aux commentaires, mais bon, on n'est pas tous potes. Hein. Il y a une illusion vraiment de promiscuité avec les blogs.
Vous avez parlé tout à l'heure de Star Academy, et pendant la phase où le manuscrit est détecté, et évidemment pendant la phase de promo, vous avez beaucoup raconté la promo. Est-ce que vous êtes justement de cette génération Star Academy, qui est totalement fasciné par les médias, la télévision, et qui raconte une espèce de rêve à partir du moment où il y a publication et promotion derrière.
Mais bien sûr, j'ai vu Le Loft, j'ai vu la Star Academy. Moi, quand j'ai signé mon contrat, je pensais à Kenza ou à Laure Delattre qui avait fait relire tout ça par les avocats. Je sais pas, on a vu tout ça. Je me doute bien que derrière, il y a des médias, il y a des gens qui vont prendre de l'argent, peut-être un peu plus qu'ils devraient. Il y a des journalistes qui sont intéressés par la petite phrase. On n'est pas totalement vierge. Mais bon, ça fait partie du jeu. Quand on a décidé de faire une pub pour le livre, par exemple, c'est un ami à moi, on a fait ça en 2 heures, une pub en noir et blanc. Moi, il y a une partie de moi très française qui disait, oh, une pub pour un livre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas bon. Et une autre partie qui disait, il est américain, il fait du marketing, il sait ce qu'il fait, let's go. Voilà. Donc il y a les deux. Il y a le côté, je me laisse porter par le truc, et en même temps, il y a le côté, on va s'amuser un petit peu. Le blog, c'est 2006-2007, en ce moment, il y a plein de blogs partout, c'est la tendance, les médias nous regardent en se disant, tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je me suis amusé avec ça. Je me suis dit, tiens, on va pousser un petit peu. Donc on a fait un concours où j'ai demandé au lecteur d'aller se photographier dans les librairies avec le livre. D'abord parce que j'étais un peu parano, je pensais que mon éditeur m'avait un peu roulé. J'ai dit non, c'est pas... mon livre n'existe pas en vrai. Donc j'ai dit au lecteur, montrez-moi si le livre existe en vrai. Allez dans les librairies, prenez-vous en photo, citez le nom du libraire surtout et montrez-moi la photo.
Vous avez vérifié la mise en place en fait. C'est une façon détournée de vérifier la mise en place du livre pour voir s'il est en tête de gondole.
Je sais pas. Puis ça me faisait plaisir de voir où est-ce que le livre allait être, à côté de qui. Il y a des associations, on m'a mis dans le rayon rock'n'roll, on m'a mis dans le rayon paramédical, on m'a mis dans le rayon sexe. Voilà, c'était un vrai bonheur de découvrir tout ça.
Est-ce que vous avez le sentiment que l'écriture n'est pas la même quand elle atterrit sur du papier ou quand elle est sous perfusion informatique sur un blog ?
Bien sûr qu'elle n'est pas la même. Quand on est sur Internet, on peut corriger, on peut effacer, on peut recommencer. Moi, si un billet n'est pas bon, si je sens dans un commentaire qu'il y a une phrase qui a été mal tournée, souvent on me dit « Oh, ta concordance des temps, elle n'est pas terrible. » Je relis le paragraphe, oui, c'est vrai, c'est nul. Donc hop, c'est vite fait, c'est effacé. Je me dis, il est 11h, il n'y a que 600 ou 700 personnes qui l'ont vu, c'est bon. Il y en a encore 4000 qui vont arriver, ils auront la bonne phrase. Sur du papier, malheureusement, c'est immuable. Quoique hier, je me suis amusé, j'ai donné une fin alternative à une nouvelle, parce que la chambre d'Albert Camus finit d'une certaine façon dans mon bouquin. Et pour les gens qui ont acheté le livre, j'ai voulu les remercier, j'ai fait un DVD bonus collector. Voilà la fin alternative. Vous allez sur donc le bouquin page 173, vous arrêtez au 4e paragraphe et vous venez sur le blog, je vous raconte ma fin, telle que c'est la fin que vous n'avez jamais lue. Voilà, cadeau pour les lecteurs. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Utiliser un blog pour ça, fabuleux.
Donc, une espèce d'interactivité. Et vous allez prolonger ce plaisir jusqu'à quand autour du livre, des lecteurs, de ce qu'ils en pensent
Tant que j'aurai le temps, parce que là, j'ai beaucoup d'autres projets qui arrivent tout d'un coup. Hein, ça aussi, c'est le côté blog, ça va très très vite. C'est une carte de visite multimédia, donc on touche tout le monde très rapidement. Et là, j'ai beaucoup de gens qui arrivent avec beaucoup de projets très excitants. Moi, j'adore mon blog tous les jours, j'adore écrire, mais il y a d'autres choses qui arrivent derrière qui sont tout aussi excitantes. Donc, je peux pas tout faire, malheureusement. Je suis seul en comité de rédaction tous les jours. Et bah, il va falloir faire des choix.
Et les habitués du début, ils commencent pas à vous faire des reproches du genre, ça y est, tu nous largues,
c'est plus que
sur
ça.
D'autres rivages.
Dégoûté,
les habitués. T'as pris la grosse tête.
Ouais. Alors, t'as du mal à garer ton Porsche Cayenne avec tout l'argent qu'on t'a donné. Qu'est-ce qu'il y a comme. Il y a des horreurs. Hein. En ce moment, je lis des horreurs. Tu nous abandonnes, pour qui tu te prends, ça y est, on va devoir d'en voici. Il y a beaucoup d'argent. Alors là, les gens ont l'impression que je roule sur l'or, alors que l'édition, il ne faut quand même pas rêver. Si j'étais Bernard Werber, je ne dis pas, mais là, ce n'est pas le cas. Il y a ça, et il y a aussi le côté tu nous abandonnes. Et c'est vrai. On va plus se voir tous les jours. Je ne vais plus vous donner quelque chose à lire tous les jours. Voilà. Mais c'est pour mon bien. C'est parce que je garde des choses pour moi, et puis elles seront en librairie. Donc, c'est une transition. On va se voir ailleurs.
Donc vous avez des projets qui vous tentent. J'avais cru comprendre qu'il y avait des tentations de télévision ou d'écrire pour la télévision.
Oui, voir des vrais gens interpréter mes vraies phrases. C'est hallucinant. En 6 mois, c'est...
Vous l'avez vu ou vous allez le voir ?
On est en train de faire le maximum pour que ça se fasse. Et ça va se faire, c'est évident. Il y a des histoires qui ne peuvent que passer par les acteurs qui les interprètent.
Qu'est-ce que vous pensez justement de cette télé qui s'approprie de plus en plus l'univers médical ? Bon, tout le monde connaît ou presque la série Urgence, mais il y a eu des séries à l'eau de rose, comme Jeune Docteur, dont ça a marqué les années 80. La télé est assez consommatrice de feuilletons et de scénarios liés au milieu médical.
D'un point de vue strictement marketing, là c'est mon côté les années Loft qui va parler. Je sais qu'en ce moment, j'ai lu des études, oui, les Français veulent voir des séries médicales. J'ai pas écrit tout ça pour ça, attention, je le découvre. Tant mieux, je suis dans une mouvance, très bien. C'est bien, je trouve que ça manque de séries médicales en France. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, depuis SOS Médecins dans les années 80. Tant mieux. On me demande de faire un truc un petit peu décalé. C'est ce que j'ai envie de faire, je pense que j'en ai les capacités. Ça manque un petit peu. Moi, j'aimerais bien faire un Julie Lescaut à l'hôpital.
Voilà, un truc populaire avec un peu de décalé. J'ai vu, maintenant les gens peuvent regarder des séries télé à 20h50 avec des scènes un peu américaines, donc on peut essayer de faire ça dans une série française.
Alors, au début de l'entretien, on vous a appelé Ron l'infirmier. Alors, est-ce qu'il faut continuer à vous appeler Ron l'infirmier ? Vous appelez Ron l'écrivain, Ron le scénariste ? Comment vous allez...
Ron le mangeur de macarons, on peut l'adapter à toutes les situations, je sais pas. Alors, on va reparler marketing. Mon ami qui fait du branding me dit toujours, il faut surtout pas changer de nom en cours de route, c'est super mauvais, ça va te coûter cher. Moi, j'aime bien Ron l'infirmier, ça pose tout de suite la situation. D'abord, Ron, c'est facile à taper dans Internet. Et deux, Ron l'infirmier, au moins, ça annonce qui je suis, ce que je fais. Voilà. C'est bien, Ron l'infirmier, je trouve.
Donc, vous restez infirmier?
Mais oui.
C'est ce qui vous fait vivre.
C'est ce qui m'alimente, c'est mon quotidien. J'aime bien mon métier. Donc, voilà. Mon rêve, ça serait de passer à mi-temps, travailler avec des enfants handicapés et de continuer à écrire le reste du temps. Voilà. Choisir vraiment mon métier. Là, je suis pas choisi, j'ai un boulot que j'aime bien, mais mon vrai pied, ça serait d'avoir un boulot à mi-temps et d'écrire le reste du temps. Voilà. Ron l'infirmier à mi-temps.
On va se quitter là-dessus. Merci Ron l'infirmier à mi-temps.
Merci à vous. Dream.